En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité François Bayrou, président du MoDem. Le débat dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du Grand Jury. Vous en êtes l'invité, François Bayrou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Depuis le milieu de la semaine, nous avons un nouveau président, un nouveau gouvernement. Les premiers pas de François Hollande au G8 vous ont semblé être à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un président de la République ?
Ça a été une bonne prise de contact et aussi une opération de communication bien faite, qui a donné l'impression, le sentiment, et peut-être assez justifié, qu'au fond, le thème que François Hollande défendait, qui était
la
croissance, était pris en compte, mais tout le monde a noté que croissance s'accompagne désormais de l'engagement d'équilibre des comptes. Et tous ceux qui ont le calendrier en tête savent que s'il y a des opérations ou s'il y a des décisions de soutien à la croissance, les résultats s'en feront sentir dans 3 ou 4 ans. Parce qu'il faut le temps de monter les dossiers, surtout si ce sont de grands équipements. En revanche, les décisions d'économie, et il faut qu'il y en ait pour 25 milliards au moins, quelque chose de cet ordre, alors ça c'est immédiat, et sur ce point on n'a pas encore les réponses.
Alors ça, on y reviendra dans cette émission sur ces thèmes-là. Nouveau gouvernement, 34 ministres, 17 hommes, 17 femmes, 29 ministres aujourd'hui ne l'étaient pas avant, ce qui est assez inhabituel. Quel regard d'ensemble portez-vous sur cette nouvelle équipe gouvernementale, François Bayrou ?
La parité bien, les nouveaux visages bien, le nombre un peu excessif par rapport aux engagements que François Hollande avait pris, les courants du Parti Socialiste, tous représentés sans exception, et de ce point de vue-là, le sentiment d'ouverture auquel il ne s'était pas engagé, je le reconnais, n'est pas là. Mais si on veut réfléchir une seconde au fond de la situation de la France, nous sommes un pays qui traverse et va traverser. Vous savez que je prends soin depuis longtemps de dire la crise, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et si l'on veut que cette crise, on puisse l'affronter de manière sérieuse, de manière forte et la vaincre, alors il faudra qu'il y ait dans le pays un climat très différent d'un climat d'un camp contre l'autre.
Droite-gauche.
Il faudra qu'il y ait dans le pays un esprit d'unité nationale, et pour moi c'est à quoi je travaillerai. Il est impossible, étant donné les circonstances sur lesquelles nous allons revenir longuement, il est impossible qu'une approche partisane, qu'une approche de parti réussisse à répondre aux problèmes du pays.
Éric Revel.
Sur les intitulés de certains ministères, Monsieur Bayrou, de ce nouveau gouvernement, Monsieur Montebourg, Arnaud, a hérité d'un ministère qui s'appelle le ministère du redressement productif. Est-ce que pour vous c'est un effet de communication ou bien est-ce que ça peut recouper une réalité importante ?
J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ironie à propos de cet intitulé, et pour moi je considère qu'il est absolument fondé. Et je considère même que s'il est une mission essentielle dans ce gouvernement, c'est celle-là. Je ne sais pas si Arnaud Montebourg réussira. Il a lui-même émis avec prudence l'idée qu'on ne réussirait pas tout. On lui en a fait le reproche. Moi, je ne lui en fais pas le reproche.
C'est ce matin, dans le journal du dimanche, il dit peut-être que nous connaîtrons quelques échecs.
Mais c'est vrai, il a raison, et quelques, et peut-être à mettre entre guillemets. Je pense qu'il y a là le problème principal qui explique la situation de notre pays. Et si donc le redressement de la production en France devient un sujet important, majeur, avec quelqu'un qui le porte, avec l'idée que ça va être essentiel et qu'il faut en effet faire preuve d'imagination.
Non,
et qu'il faut en effet,
mais c'est simplement,
est-ce qu'avoir
un ministère qui s'appelait ministère de l'Industrie, c'est pas suffisant pour redresser la production.
Ça n'est pas suffisant parce que tout le monde croit qu'il n'y a que l'industrie dans la production. On se trompe. Il y a l'industrie, il y a même l'artisanat, il y a tout ce qui est les œuvres de l'esprit, il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire, il y a le culturel et il y a le numérique. Et tout ça, ça fait partie pour moi de la production, et donc j'ai trouvé que cet intitulé n'était pas si déplacé qu'on a bien voulu le dire.
Je reviens une seconde sur le fond. Vous dites, vous êtes pour l'unité nationale.
Oui.
Très bien. Et contre l'approche partisane. Mais alors, des élections législatives où d'un côté l'UMP va défendre son programme et les socialistes défendent le leur, c'est exactement une approche partisane.
Eh bien, Étienne Moujot, vous venez d'expliquer en une phrase quel est mon engagement dans ces élections législatives.
Vous allez être coincé.
Oui, c'est possible.
Oui.
Je vais vous dire quel est le combat, en tout cas. Il y a deux risques pour la France aujourd'hui. Le premier risque, c'est le parti socialiste ayant tous les pouvoirs, du sol au plafond, de la cave au grenier, sans exception dans la société française, et personne pour lui dire « attention, vous vous trompez », et vous savez à quel point, lorsqu'un parti a tous les pouvoirs, il fait des bêtises, personne pour
alors
lui
là,
dire « attention ».
Une majorité de droite à l'Assemblée.
Non.
Ah bah,
écoutez-moi,
c'est le meilleur
si vous voulez bien, si vous voulez bien me laisser finir
je
ma phrase, ça serait très bien. Je vais vous décevoir dans la deuxième partie.
Sûrement pas.
Et il y a un risque.
Il
y a un risque au moins aussi important, sinon plus important encore, qui est le risque d'avoir à l'Assemblée nationale une majorité en guerre avec le président de la République. Et quand je dis en guerre, c'est les mots exacts que Jean-François Copé a utilisés aujourd'hui.
Alors vous
chef de guerre.
Vous votez Hollande et donc, à la présidentielle, vous votez
bien,
socialiste ou législatif.
Eh bien non, parce que j'ai tout à fait...
Vous voulez la majorité socialiste.
J'ai tout à fait l'intention de proposer aux Français, sous l'étiquette du Centre pour la France, précisément des centaines de candidats qui disent ce que vous venez de dire. Épargnons-nous ces deux risques. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas un seul parti qui ait tous les pouvoirs et qu'il n'y ait pas une majorité qui soit en guerre avec le président de la République.
Le seul moyen qu'un seul parti n'ait pas tous les pouvoirs,
si vous voulez bien,
l'UMP soit majoritaire à l'Assemblée.
Je ne le crois pas parce que là, ça serait une catastrophe. C'est pas.
Ah.
J'ai été le bras droit de Raymond Barre. Nous nous sommes battus ensemble contre la cohabitation, vous vous en souvenez.
Oui, mais il n'a jamais voté socialiste.
En expliquant...
Il n'a jamais voté socialiste.
Bon, je ne sais pas ce qu'il aurait fait dans ces circonstances.
Ah, oui, non.
Et
au deuxième tour de 1988, il n'a pas voté socialiste. C'est
ouais,
ça
non.
Voilà. Et donc, bon...
Bon, vous pensez que oui.
Non, je ne sais
non,
pas.
Non, là, on fait de l'histoire.
Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'en 1988, il n'était pas du tout satisfait du choix qui était sur la table.
Enfin, il a appelé à voter Chirac avec beaucoup de courage et de clarté.
Et donc, oui. J'étais plus près de lui que vous à cette époque-là.
C'est vrai.
Voilà. Donc, je mets en pointillé cette affaire. Ouais. Non, mais et donc précisément ce qu'il faut, ce sont des voix politiques qui soient capables à l'Assemblée de dire oui quand les décisions du gouvernement sont justes et de dire non avec fermeté quand elles ne le sont pas. Voilà exactement pourquoi, pour écarter ces deux risques que vous avez parfaitement définis, Étienne Moujot, le risque d'une majorité qui a tous les pouvoirs entre les mains et personne comme contrepoids, et de l'autre, le risque d'une majorité hostile au président de la République, qu'il faut voter pour ceux qui se présentent sous l'étiquette du Centre pour la France. Et je vais aller un peu plus loin, parce que ceux qui nous écoutent, peut-être, n'ont pas en tête une chose tout à fait essentielle. Sous la Ve République, toutes les décisions exigent la double signature du gouvernement et du président de la République. Le président de la République a, entre les mains, et François Mitterrand l'a montré en son temps sans la moindre hésitation, le président de la République a entre les mains une sorte de droit de veto sur toutes les décisions importantes. S'il y a la guerre entre la majorité et le président de la République dans un pays en crise... C'est la situation que nous avons en Grèce aujourd'hui. Et donc, il faut des voix libres. Des voix libres et fortes, capables de dire, écoutez, là, franchement, ça ne va pas, ou bien là, vous allez dans le bon sens, et nous vous apporterons notre soutien, même si c'est difficile. Et c'est toute l'idée de cette proposition que nous faisons aux Français, sous l'étiquette du Centre pour la France.
Restons là-dessus. Alors, un mot, Étienne.
Cohabitation en France. Il n'y a jamais eu de drame. Jamais. Jamais.
Alors qu'Étienne Moujot devienne devant les Français défenseur de la cohabitation.
Non, je dis que ça n'est pas le drame que vous décrivez.
Eh bien, moi, je vous dis que c'est une ça serait une catastrophe pour le pays d'avoir une majorité en guerre, une majorité nouvelle en guerre avec le président de la République nouveau. Alors ça, oui, je le dis avec certitude. Regardez le climat qui existe entre ces deux camps. Regardez les accusations et les mots qui s'échangent. Encore aujourd'hui, Jean-François Copé a dit « Je serai le chef de guerre contre François Hollande qui a déclaré la guerre aux Français que nous sommes ». Mais dans quel pays vit-on ? Quelle est cette ambiance-là ? La violence qui est entrée dans la vie politique et dans les échanges entre Français, elle est nuisible. Et je me battrai toujours contre cette violence.
Alors, restons là-dessus. On a bien compris le sens de votre message. Votre candidature, celle des candidats que vous présentez, a pour but d'éviter ces deux inconvénients que vous décrivez.
De créer une force de contrôle et de conciliation. Voilà, si on peut dire ça. Une force qui empêche la confrontation brutale.
Des deux...
C'est une expression. Les casques bleus ont une mission essentiellement de protection diplomatique, mais on peut imaginer qu'il y ait aussi une mission de proposition.
Des deux mots que vous évoquez, François Bayrou, un parti qui a tous les pouvoirs et la cohabitation, lequel est le pire ?
Aucun des deux n'est bon. Mais la cohabitation, c'est un blocage immédiat. Un parti qui a tous les pouvoirs, c'est un risque à moyen terme très très important.
Mmh. Vous présentez 400 candidats, vous l'avez dit, dans une situation, on peut le dire...
350 et 50 soutiens, oui.
De faiblesse politique ?
Dans une situation de difficulté politique.
Au résultat de l'élection présidentielle, vous-même, vous n'êtes pas sûr d'être réélu ?
Mais vous connaissez un seul candidat qui soit sûr d'être réélu. Eh bien, je vais vous dire, c'est une circonscription...
1988, au suffrage majoritaire.
C'est une circonscription où je suis né, c'est une singularité dans le paysage politique français. Parce que la plupart des élus de région sont des élus parachutés. Des gens qui se sont fait attribuer une circonscription par l'appareil de parti. Moi, j'y suis né. J'y ai grandi. J'y ai vécu. Mes enfants y ont grandi. Et c'est là que je vis. Et ça crée avec les habitants de cette circonscription, qui sont pas seulement des électeurs pour moi, qui sont des proches, des concitoyens, des amis, ça crée un lien très important. C'est une circonscription dont sans cesse, au travers du temps, je me suis fait l'avocat, y compris à votre micro souvent, j'ai parlé de ces réussites exceptionnelles, Turboméca, c'est-à-dire 1/2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Je me suis attaché à le faire connaître, le centre de recherche de... total du monde entier, des sciences du sous-sol du monde entier, de très grandes réussites, un esprit, on va dire sportif, rugby, puisque je le disais juste avant que l'antenne ne s'ouvre, la section paloise est en finale, et j'étais hier au match. Tout ça, ce ne sont pas des données politiques, voyez. Ce sont des données, je vais employer un mot surprenant, familiales. Et donc, je suis, pour moi, certain que je les ai représentés du mieux que je pouvais au cours de ces années, que je les représenterai avec force au cours des années qui viennent et qu'ils le savent.
Éric Revel ?
J'aimerais, François Bayrou, si vous le permettez, qu'on revienne un peu sur le rôle que vous voudriez faire jouer au MoDem. Alors, Étienne Mougette a parlé de casque bleu, de cordon sanitaire, de force, de tampon entre le pouvoir, le nouveau pouvoir et le pouvoir sortant, sorti. Est-ce que vous êtes fixé un objectif ? À partir de quel moment vous pourriez considérer... Ah ben si, c'est important. Parce que si vous voulez jouer le rôle de tampon entre ceux qui déclarent la guerre à ceux qui sont arrivés, il faut quand même avoir des forces.
Je ne vais pas faire le matamor.
Non, mais est-ce que je peux vous demander simplement de préciser à partir de quel moment vous pourriez considérer que le MoDem et ses élus pourraient jouer le rôle que vous souhaitez qu'il joue dans le prochain paysage politique français.
Je souhaite que, à l'Assemblée nationale, ceux d'entre nous qui seront élus s'allient, se réunissent avec d'autres qui auraient la même vocation et la même volonté. Je sais très bien que, étant donné pour l'instant la loi électorale, nous ne faisons pas tout seul facilement. On serait à la proportionnelle. Comme je suis sûr qu'on devra y aller, au moins en partie. Et comme François Hollande s'y est engagé. On serait à la proportionnelle, cette force politique, avec le résultat de l'élection présidentielle, elle aurait 60 élus. C'est-à-dire le moyen d'être une force puissante, considérable, au centre de l'échiquier politique.
Mais l'Assemblée serait ingouvernable, monsieur.
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas
du tout. C'est un autre débat.
L'Assemblée allemande.
Je n'ai pas pu résister.
L'Assemblée allemande n'est pas ingouvernable. que je sache.
Mais il y a un spectre politique au moins large que chez nous.
Pas du tout, c'est un spectre politique à 5 forces, comme chez nous, et après tout, exactement à 5 forces. Et donc, il n'y a aucune raison de penser
mais que avec qui vous pourriez compléter la force dont vous parlez? Est-ce que c'est ça? Là,
je sais
nous dire,
qu'il
je
y a
avec...
des élus ou de futurs élus, des candidats qui pensent ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vous dis, si l'on veut servir le pays, au fond, c'est ça qui m'intéresse. Si l'on veut que la France trouve une réponse adaptée au temps tourmenté qu'elle va vivre, et il n'y a pas un de ceux qui nous écoutent qui ignore que nous allons vivre des temps de cet ordre, tourmentés et troublés. Si l'on veut cela, alors il faut qu'il y ait une force capable d'équilibrer, une force d'équilibre. Au fond, cette force, elle doit aider à ce que les choses se passent comme il faut, en votant oui ou en votant non. Elle doit construire, parce que je suis très frappé de ceci, il va falloir changer le modèle de société qui est le nôtre. Le modèle de social, le modèle économique avec lequel nous avons vécu depuis des années, ce modèle-là va se trouver directement ciblé par la crise. Donc il faut apporter des idées nouvelles, il faut le faire en étant non pas en opposition, en confrontation, mais en dialogue avec le pouvoir. Et il faut équilibrer. Il faut équilibrer les pouvoirs, il faut équilibrer les finances, il faut équilibrer croissance et stabilité. Tout ça, c'est un verbe qui est très important dans l'avenir.
Vous allez avoir beaucoup de mal. Vous alliez au Nouveau Centre, au Parti Radical. Eux ont voté Sarkozy, vous avez voté Hollande.
Eh bien,
vous auriez été plus à même de les rassembler si vous aviez voté blanc.
Étienne,
au lieu de vous engager derrière Hollande.
C'est plus, me semble-t-il, une forme de reproche ou de conseil a posteriori qu'une question.
C'est un constat. Un constat.
Étienne Moujotte, je ne vous ai jamais dit que c'était facile.
C'est vrai.
Ni en public, ni en privé. Je considère que l'opposition de la France en deux camps, Sarkozy contre Hollande, et pire encore, ceux qui ont voté Sarkozy dans le passé et ceux qui ont voté Hollande dans le passé, tout ceci est nuisible. Vous savez pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai pris cette décision parce que j'ai vu grandir, au travers des années, le risque extrême de la division du pays, le risque extrême de l'affrontement des Français entre eux. Sur tout sujet, et notamment sur les sujets les plus brûlants, les sujets d'immigration, les sujets de religion. J'ai lu une statistique hier, ou un sondage hier, qui m'a fait peur. Je peux dire ça, vous savez que les religions, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis un défenseur de la laïcité, et je suis un croyant. Eh bien, le sondage qui a été fait à la sortie des urnes dit que les catholiques pratiquants, au terme de ces années, ont voté Sarkozy à 80%. Mmh. Et que les musulmans pratiquants ont voté Hollande à 93%. Ça vous fait pas peur?
Ça nous rappelle les temps anciens.
Eh bien, moi, je dis que précisément pour ces raisons-là, il fallait en effet qu'une ère nouvelle s'ouvre, dans laquelle on puisse considérer qu'on ne verse pas perpétuellement de l'huile sur le feu, qu'on fasse pas flamber ces sujets. Et je suis persuadé que la stratégie qui a été suivie, c'est exactement celle-là. J'ai été intéressé, il y a eu la projection d'un documentaire sur Canal+, qui était fait par Thomas Legrand.
Les stratèges.
Et qui, filmant M. Guénot en novembre, c'est-à-dire 6 mois avant, M. Guénot a dit cette phrase, ou à peu près, il a dit « Si on fait une campagne de rassembleurs, Nicolas Sarkozy sera réélu. Si on fait une campagne à la poursuite de l'extrême droite, il sera battu. » Et il a ajouté cette phrase parce que la défaite morale précède toujours la défaite politique. Et en regardant cette phrase, je me suis dit qu'après tout, il y avait eu des intuitions en ce sens. Et je suis persuadé que le choix qui a été fait par l'équipe de Nicolas Sarkozy et par lui-même, de ce point de vue-là, a été un choix déstabilisateur pour beaucoup de Français, dont j'ai été. J'ai trouvé que la confusion perpétuelle entre les problèmes de l'immigration et l'islam, perpétuellement entretenu par les mots et par les images, était quelque chose qui allait nuire à la France et la rendre incapable de résoudre les problèmes qui se posent à elle, parce que vous ne pouvez pas sortir de la crise un pays déchiré.
Et c'est ce qui vous a amené à faire le choix qui a été le vôtre pour le deuxième tour de l'élection présidentielle.
Oui,
c'est essentiellement ça, et vous l'avez dit.
Oui, mais la logique maintenant serait d'aller vers François Hollande et lui dire alors, essayons de travailler ensemble. D'aller vers... Or, à nouveau, vous vous remettez au centre.
C'est pas que je me remette au centre, j'y suis.
Je comprends mal. Vous avez voté socialiste et vous vous remettez au centre.
Monsieur, d'abord, je n'ai pas voté socialiste.
J'ai voté Hollande. Mais Hollande voté pour un, socialiste.
Pour un président de la République dont je considérais qu'il était moins... qu'il avait moins semé de violence pendant cette période. Oh, il en a semé quelques-unes. En ciblant les riches, la finance, enfin bon. Alors, mais je vais répondre à votre question précisément. Vous dites unité nationale. Est-ce que ça sera suivi des faits un jour? Moi, je vous dis le jour, car il viendra. Quand le jour viendra, où le programme qui a été celui de François Hollande sera passé au feu de la réalité, et qu'il y aura en effet des changements profonds à y apporter. Ce jour-là, si l'unité nationale est proposée, je ne me déroberai pas, nous ne nous déroberons pas. Parce que je suis persuadé qu'il faudra que des forces différentes, ayant un chemin différent dans le passé, soient capables un jour de se réunir pour sortir la France des difficultés où elle se trouve.
François Bayrou, après votre geste en faveur de François Hollande, est-ce que vous avez attendu une sorte d'ouverture? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans la première réponse, vous avez donné l'impression que vous regrettiez qu'il n'y ait pas eu une ouverture, sans doute, dans votre direction. Est-ce que l'unité nationale dont vous parlez, est-ce que la forme de recours dans laquelle vous pouvez peut-être vous draper ne pourrait pas se faire dans un premier temps s'il y avait une ouverture du Parti Socialiste en direction du MoDem?
Je ne crois pas que ce soit une hypothèse réaliste. Je ne crois pas.
C'est peut-être pas le moment avant législative.
Oui, non, mais je ne le crois pas. Le projet qui est celui de François Hollande, on le connaît bien, vous savez ce que j'en ai dit sur un certain nombre de points. Je me suis accordé avec lui sur un certain nombre de décisions de moralisation de la vie publique, par exemple. Et les premières mesures qu'il a prises vont dans le bon sens. Baisser le salaire de l'exécutif, ça va dans le bon sens. Prendre des décisions de non-cumul, des décisions de parité, tout ça, je considère que ça va dans le bon sens. Mais je pense que en France, on sous-estime la crise qui vient. Je pense qu'en France, dans le débat public, et j'ai tout fait pour essayer que ça ne soit pas le cas, hein, j'ai mis toutes mes forces pour qu'on parle des grands sujets. Mais en France, dans le débat public, on a sous-estimé les choses. Et je pense que le tsunami qui risque de prendre naissance en Grèce, si on n'y fait pas attention, peut-être on y viendra. Je pense que ces risques-là sont des risques qui vont nous amener à reprendre, à partir des fondations, le projet que nous tous Français, nous devons avoir pour la France.
Mais pardonnez-moi, j'ai toujours du mal à comprendre. Vous êtes très clair dans ce que vous dites. Hein. Vous dites, j'ai appelé à voter François Hollande, j'ai dénoncé en même temps le fait que son programme allait très rapidement se heurter aux réalités économiques d'une crise qui est encore devant nous. Donc son programme, eh ben, il va rajouter à la crise sans doute et aux difficultés budgétaires, c'est ce que vous dites en creux. Et en même temps, vous avez appelé à voter François Hollande. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Parce que vous croyez que le sujet de l'élection présidentielle se limite aux mesures économiques. Et moi, je crois qu'il ne se limite pas aux mesures économiques. Je vais même vous dire plus, le programme de Nicolas Sarkozy était aussi sous-financé, aussi incrédible que l'était pour moi et à mes yeux le programme de François Hollande. Vous savez bien qu'il y a de grands think tanks que Étienne Moujotte connaît bien, qui ont chiffré les programmes. Ils ont dit au programme de François Hollande, il manque 12 milliards, au programme de Nicolas Sarkozy, il manque 20 milliards. Et cependant, ça n'est pas sur ce point qu'a porté l'essentiel de ma critique. Nous avons besoin d'avoir une approche nouvelle de la démarche politique en France. Nous ne pouvons pas continuer à faire que ce pays est en guerre, une moitié du pays contre l'autre, une religion contre les autres, des situations sociales et économiques contre d'autres. On ne peut pas continuer ainsi.
C'est la logique de la démocratie ?
Non.
Un parti gouverne, un parti s'oppose ?
Non. C'est pas la logique de la démocratie.
Ça vous semble pire que dans d'autres pays en France ?
D'allumer des thèmes comme cela. Ah oui, il n'y a jamais de thème qui porte sur la religion en Allemagne, par exemple.
En Grande-Bretagne ?
En Grande-Bretagne, jamais. Aux États-Unis, jamais.
Les communautés aux États-Unis.
Non, les communautés peut-être. Le Tea Party, comme on dit, sont en effet des fondamentalistes. Mais ça n'est pas le thème principal. Si, les thèmes que le Tea Party impose sont souvent des thèmes de cet ordre. Mais justement, c'est pas ce que je voudrais pour la République française.
Vous avez évoqué le tsunami. Parlons-en, puisque voilà, on va s'interrompre dans quelques minutes pour écouter les informations, mais commençons tout de même. Vous pressentez que ce qui se passe en Grèce est le début d'une crise. Vous n'avez pas confiance dans la capacité de contenir aujourd'hui ce qui se passe en Grèce de la part des autorités européennes. Vous souriez un peu, mais...
Non, je souris parce que...
Ce n'est pas l'affaire qui vous fait sourire, mais c'est la naïveté de ma question qui vous fait sourire.
Non, pas du tout. Souris parce que c'est au moins la troisième fois à ce micro que nous abordons cette question. Et je vous ai toujours répondu la même chose. Je ne crois pas que s'il y a un effondrement, une rupture en Grèce, cette rupture sera isolée, contenue, mise à l'abri par des décisions que prendront les autres pays de la zone euro. Je ne le crois pas. Quand je disais tsunami, c'est le tsunami du doute et du soupçon. Quand dans une zone monétaire, dans une zone qui a une monnaie unique, comme la zone euro, tout d'un coup on n'a plus confiance dans les prêts que l'on fait, dans la parole des États, dans la parole des banques, à ce moment-là, de partout, il y a une déstabilisation qui se met en place. À ce moment-là, les gens se disent « mais mon argent à la banque, est-ce qu'il est en sécurité ?» J'ai entendu 10 fois la question, moi-même, dans les semaines, dans les jours qui viennent de s'écouler, et vous aussi sans doute. On a vu qu'en Espagne, il y avait des bruits de retrait très importants, qu'en Grèce, il y avait des retraits très importants. À l'instant même où la confiance n'est plus là, l'économie s'effondre. Et donc, je crois, moi, que c'est un conseil que je donne. À ceux qui ont les responsabilités dans cette affaire. S'ils peuvent tout faire pour que la Grèce ne s'effondre pas, qu'ils le fassent. Ça sera un investissement sans doute beaucoup plus important.
Si les Grecs sont incapables aujourd'hui de trouver une solution politique, les Grecs votent pour des partis qui ne facilitent pas une solution politique.
Ouais, j'ai lu l'interview de ces leaders. Aujourd'hui, c'est pas tant de sortie de l'euro qu'ils parlent que de faire pression sur la zone euro pour qu'on les aide.
Celui d'extrême gauche, voilà. Les dirigeants européens disent, voilà, lui, il veut le beurre et l'argent du beurre, et c'est pas la position la plus difficile à tenir, celle-là.
Oui, vous avez raison, sans doute, mais je me souviens d'avoir dit précisément à ce micro que je ne croyais pas que le peuple grec supporterait les incroyables efforts qu'on lui demande de faire en peu de temps. Et j'avais défendu à votre idée l'idée d'un refinancement de long terme, à des taux extrêmement bas, avec un calendrier de réformes digérable, de manière que le peuple grec ne soit pas ainsi acculé comme il l'a été. Et quand on est acculé, ben on fait un peu n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé.
Mais François Bayrou, vous vous rendez compte que ça peut devenir, la Grèce, un puits sans fond? La France est déjà engagée à hauteur de 64 milliards. Je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas des autres. Est-ce qu'on peut, en permanence, continuer à aider les Grecs s'ils ne veulent pas respecter les règles ?
Vous avez raison.
Il y a un moment,
François Bayrou, je suis désolé. On a entendu la question d'Étienne Moujotte. Je suis désolé d'interrompre
le débat à cet instant-là. Je reprendrai cette réponse, mais... Oui. Pour moi, ça ne devrait pas être les autres États de la zone euro qui soient mis à contribution.
Nous écoutons les informations, puis nous revenons dans la deuxième partie du grand jury de François Bayrou pour continuer à évoquer le problème grec, le problème européen.
Et le problème français.
D'autres questions, et le problème français aussi, à tout de suite.
Et voici comment ma banque s'engage avec la Caisse d'épargne.
Cédric Mignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du développement des caisses d'épargne, en charge notamment des entreprises. Alors justement, parlons des entreprises. Car si la Caisse d'épargne se révèle être la banque préférée des particuliers, qu'en est-il des entreprises et en quoi vous engagez-vous vis-à-vis d'elles ?
Alors on s'engage d'abord en faisant bien notre métier. C'est le rôle des caisses d'épargne d'être présent auprès des entreprises. Et aujourd'hui, nous avons une gamme complète d'offres et de services, que ce soit sur l'épargne, les crédits, mais également par exemple sur les fonds propres.
Alors Cédric Mignon, là il s'agit de vos engagements, c'est très bien. Mais alors concrètement, les entreprises vous suivent ?
Bah, la première preuve, concrètement, c'est les entreprises nouvelles qui ont rejoint la Caisse d'épargne. Plus de 2000 entreprises de plus d'1,5 million de chiffre d'affaires ont rejoint la Caisse d'épargne en 2011. Et encore plus concrètement, en 2011, les encours de crédit, donc nos engagements auprès des entreprises, se sont accrus de plus de 20%, soit 4 fois plus que la moyenne nationale.
Mais merci Cédric Mignon, à très bientôt avec la Caisse d'épargne.
Merci.
Caisse d'épargne, la banque, nouvelle définition.
Ce soir, grande première sur TF1. Le défi du check-in peut vous permettre de gagner facilement une voiture. Votre mission est simple. Munissez-vous de votre smartphone. Lancez l'appli MyTF1. Visez votre télé. Checkez. Et c'est peut-être gagné. Ce soir, on se retrouve tous sur TF1. Pour le check-in.
Il est 19h. Les infos Nicolas Georges.
Le drapeau rouge hissé par Bison Futé aujourd'hui à l'occasion de la fin du pont de l'Ascension. Comme prévu, ça roule très mal ce soir dans le sens des retours avec plus de 600 km de bouchons. Principaux points noirs, l'A7 entre Avignon et Lyon, l'A61 de Narbonne à Toulouse, l'A9 entre Montpellier et Orange, l'A10 de Niort à Orléans et l'A13 entre Caen et Poissy. Patience et prudence donc si vous êtes sur la route. Toujours beaucoup d'interrogations après le terrible accident lors d'un rallye dans le Var. Hier, le pilote et le copilote de la voiture de course qui a foncé dans la foule sont toujours interrogés par les enquêteurs. Ils ont été placés en garde à vue cet après-midi. Le dernier bilan fait état de 2 morts et de 19 blessés, dont 3 graves. Dans la région de Modène, dans le nord-est de l'Italie, plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées cet après-midi. La raison, une nouvelle secousse a touché la région, une réplique du séisme de ce matin. Un séisme de magnitude 6 qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés. Le chef du gouvernement italien, Mario Monti, a décidé d'anticiper son retour du sommet de l'OTAN. Il doit rentrer en Italie demain matin. Le sommet de l'OTAN, justement, il rassemble aujourd'hui et demain à Chicago une cinquantaine de dirigeants du monde entier. L'Afghanistan sera l'un des sujets phares de ce sommet. Nouvelle journée pour l'emploi demain sur RTL. L'objectif est toujours le même, mettre en relation ceux qui recherchent du travail et ceux qui en proposent. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous faire parvenir toutes vos offres sur notre site internet rtl.fr. Elles seront consultables dès demain matin, 4h30. La 38e et dernière journée de Ligue 1 à vivre ce soir sur notre antenne. Qui de Montpellier ou du Paris Saint-Germain sera sacré champion de France ? Le programme de la soirée, Auxerre Montpellier, Évian Thonon Brest, Lille-Nancy, Lorient PSG, Lyon-Nice, Rennes-Dijon, Saint-Étienne-Bordeaux, Sochaux-Marseille, Toulouse-Ajaccio et Valenciennes-Caen. Match à vivre dans Multiplex RTL l'équipe de 20h30 à minuit. Le temps pour demain, des pluies et des orages sur la moitié est du pays, temps couvert dans le sud-ouest, retour de timides éclaircies pour le reste du pays. Les températures, elles sont en baisse de 13 degrés à Rodez jusqu'à 25 degrés à Strasbourg. Dans un instant, la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. François Bayrou est notre invité ce soir, débat animé par Jean-Michel Apathy.
Et voici Parlons Entreprises avec Oseo.
François Drouin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'Oseo. Alors qu'est-ce que le changement de gouvernement va modifier aux activités d'Oseo ?
Oseo est une entreprise publique. Elle est au service de l'État et des régions. Et tous les jours, nous travaillons avec eux. Nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique de l'État et la politique des régions au profit des entreprises de leur territoire.
Donc pour les entreprises, rien ne va changer ?
Ah si, le gouvernement souhaite mettre en place une banque publique d'investissement qui réunira sous une même gouvernance les deux activités des fonds propres, le capital, la prise de participation et le crédit, ce que fait aujourd'hui Oseo. Et tout cela pourrait être servi par un réseau unique. Ainsi, cela permettra de mieux alimenter les trois moteurs de croissance que sont l'innovation, l'investissement et l'international au service de la compétitivité des entreprises françaises.
Bien, merci François Drouin, on se dit à très bientôt avec Oseo.
C'est moi qui vous remercie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur oseo.fr.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité François Bayrou, président du Modem. Le débat dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour la poursuite de votre grand jury. François Bayrou, Étienne Moujotte sur l'Euro.
Je résume la question. Vous êtes favorable au maintien de la Grèce dans l'euro, comme beaucoup de dirigeants européens. Vous dites qu'il faut aider les Grecs. Mais si les Grecs ne respectent pas les disciplines nécessaires, je ne vois pas comment on peut y arriver.
Si vous adoptez le principe que vous allez aider ce pays à refinancer sa dette, et non pas par les autres États européens, parce que je pense que ça, alors c'est impossible, étant donné la situation des finances publiques, mais par les institutions européennes, qui, elles, ne sont pas endettées. Si vous adoptez ce principe, alors vous avez les moyens de peser fortement sur les décisions des gouvernements grecs, parce que, comme vous savez, le refinancement de la dette, c'est perpétuel. Enfin, c'est presque chaque mois.
Sauf que les institutions, et notamment la BCE, sont financées par les États. Donc, on revient toujours aux États qui doivent remettre...
Est-ce que la Banque centrale américaine est financée par les États américains ?
Non, mais elle crée de la monnaie autant qu'elle veut. Bon. Elle fabrique du dollar autant qu'elle veut.
Ben, nous aussi, nous créons de la monnaie. Vous savez, on ne le dit pas, mais on le fait.
Un petit peu, heureusement.
On le fait. Bon, un peu plus qu'un petit peu. Oui. À un rythme plus élevé. On devra y arriver. On ne va pas laisser s'effondrer la Grèce, je le crois, sans problème. Et en tout cas, on ne laissera pas s'effondrer un autre des grands États européens. Donc tout ceci est pour moi une nécessité. On va devoir revoir le plan de bataille.
La fin de l'euro est possible ? Aujourd'hui ?
Oui.
Vous le pensez ?
Et je dis cela sans joie, et je dis cela avec de très grandes craintes. Mais je pense que si on ne fait pas attention, on peut avoir de graves accidents. Je pense qu'il y a des milieux qui s'y préparent et le souhaitent. J'ai lu beaucoup de déclarations, y compris en Allemagne, de milieux qui sont des milieux de la banque allemande, et qui non seulement s'y préparent, mais en tout cas envisagent cette hypothèse sans inquiétude. Et je ne sais pas si vous mesurez ce que cela signifierait pour nous tous.
Peut-être que la fin de l'euro est envisagée par certains, parce que l'euro n'est pas viable.
Non, je ne crois pas ça, du tout. Je pense que l'euro est viable, pourvu qu'il se dote d'une direction politique sérieuse et réactive.
Éric Revel ?
Tout à l'heure, vous disiez l'économie a besoin de confiance. C'est vrai que quand vous dites la fin de l'euro est proche, même si elle est grave, c'est pas.
La question, Jean-Michel Apathy, était est-ce que la fin de l'euro est possible ?
C'est pas la même chose.
Et en effet, une décomposition est possible. Si on laisse filer les mailles du bas, en effet, il est possible que des choses très, très importantes arrivent. Donc, remettez bien la tête d'aplomb sur les épaules.
Très bien.
Je n'ai pas dit qu'elle était proche.
Enfin, je crois.
Je n'ai même pas dit qu'elle était probable.
Si. D'accord.
J'ai dit qu'elle était possible si on continue ou si on multipliait les bêtises.
Bon, en fait, je voulais vous interroger sur la croissance. Vous avez vu que le président Hollande est à Berlin la semaine dernière et au G8 devant Barack Obama a remis sur la table l'idée qu'il fallait relancer la croissance en Europe. Obama s'est saisi de cette idée. Est-ce que vous pensez que, à côté de l'austérité budgétaire, il faut que les structures européennes se dotent d'un vaste plan de relance économique.
Je l'ai toujours pensé et je l'ai défendu depuis 2009 parce que je pense qu'il n'est pas, on ne peut pas proposer comme seul
et
horizon.
Et en même temps, vous attiriez l'attention sur le niveau de la dette.
Mais oui, parce qu'il va falloir faire les deux. Et au fond, ce que François Hollande a dit derrière son pupitre au G8, c'est ça. Il a dit, il va falloir, je ne sais pas le mot qu'il a utilisé, de la stabilité et de la croissance en même temps. Cet équilibre est nécessaire. Simplement, je répète ce que j'ai dit dans la première phase de cette émission, c'est que la croissance, si on décide de la soutenir, notamment en ayant des projets européens, et notamment en faisant appel à l'épargne européenne pour les projets européens, ce qu'on appelle dans le langage des project bonds, eurobonds et project bonds, euro-obligations, ou des... tous ces instruments financiers qui visent pas autre chose qu'à faire appel à l'épargne des Européens pour financer la croissance européenne qui est en panne. Tout cela, je crois que c'est possible, je crois que c'est souhaitable. Ça a deux caractéristiques. La première, c'est que ça n'interviendra, si ça existe, les résultats ne commenceront à se faire sentir que dans plusieurs années, parce qu'il faut choisir les projets, il faut lancer les appels d'offres, vous allez avoir des contestations par des associations grâce avec toutes les règles et toutes les lois, il faut des années pour que ça se fasse sentir. Mais deuxièmement, ça n'existera que si c'est accompagné ou précédé d'un plan sérieux qui donne aux Européens et au monde, mais aux Européens, aux citoyens qui vont prêter, l'idée que cette fois-ci, on est dans une phase où les États vont arrêter de faire des bêtises. Où on ne va pas se retrouver avec une Grèce, une Espagne en difficulté, une Italie en difficulté. Qu'on va avoir désormais une assise. Je pense que pour la croissance, le mot le plus important, c'est la confiance. Je pense que si les entrepreneurs, si les investisseurs, si tous ceux qui ont envie de créer n'ont pas le sentiment que ça va durer, ils ont le sentiment d'une fragilité, personne n'entreprend et n'investit rien.
Ayant la
et
tête bien sur les épaules, la confiance quand même, François Bayrou, quand vous dites il y a un risque avéré de changement d'unité monétaire et de disparition de l'euro, ben c'est pas la meilleure. Non, mais vous dites c'est possible.
C'est
possible.
Vous lisez les journaux ?
Oui.
Non, mais vous lisez les journaux ?
Oui, bien sûr.
Bon, vous les écrivez, ou en tout cas, vous les faites visuellement.
Ce que je vais vous dire simplement, vous avez tout à fait raison. La confiance, c'est le maître mot absolu en matière économique.
Voilà.
Il n'y a aucun doute. Mais quand il y a une sorte d'épée de Damoclès d'une disparition possible, vu la situation économique de la zone euro, de l'euro, alors ce n'est pas la meilleure façon d'avoir de la confiance.
Monsieur Revel.
C'est simplement ce que je voulais vous dire.
Je lisais la presse anglo-saxonne ce matin. Tous les journaux étaient pleins du retour de la drachme. Et comment ça allait se passer? Et quelle pourrait être l'unité de valeur, de départ? Et au bout de combien de temps on se trouverait à moins 50%? C'est précisément ce que je vous conjure d'éviter. Vous voyez, je suis un citoyen. Comme responsable politique, je m'adresse aux autres responsables politiques qui vont prendre les décisions et je leur dis, vous devez éviter que la Grèce soit en situation de rupture avec l'euro. Bien sûr, comme dit Étienne Moujotte, ce sont des sommes, mais je vous assure que ces sommes sont bien moindres que celles dont nous aurions à déplorer la perte si jamais le tsunami partait. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je ne le crois pas depuis aujourd'hui. Et donc, je vous demande de réfléchir à cela. Oui, nous sommes assez souvent en train de danser au bord du gouffre. Et si on pouvait éviter d'y tomber, franchement, c'est le meilleur service qu'on pourrait rendre à nos pays.
Étienne ?
Je suis très surpris, François Bayrou, car on parle de la relance de la croissance depuis 10 minutes et vous n'avez à aucun moment fait référence aux réformes de structure indispensables si on veut relancer la croissance en France. Flexibilité du marché du travail, diminution des charges des entreprises, abaissement de la réglementation. C'est ça la base pour relancer la croissance en France.
Si vous m'aviez interrogé sur la base pour la croissance en France, je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de production, je n'aurais pas écarté les solutions que vous indiquez. Pas toutes, mais par exemple la flexibilité du marché du travail, elle interviendra. Parce qu'il est impossible de faire autrement. C'est un des seuls leviers que nous avons pour éviter... pour améliorer la compétitivité du pays sans porter atteinte au pouvoir d'achat des salariés. Parce que derrière votre question, il y a une idée qui chemine, c'est que va falloir couper dans les salaires de ces salariés qui sont trop payés.
Non, c'est de pouvoir licencier plus facilement pour pouvoir embaucher plus facilement. Ça n'a rien
entre
à
autres,
voir avec le salaire.
Entre autres. Parce qu'il y a la fixation des horaires, toutes ces choses-là sont bienvenues.
Au niveau des
le licenciement plus facile.
Non, moi j'avais proposé un contrat de travail unique, comme vous savez. Voilà.
Mais pour l'instant, on n'y est pas.
Mais je ne vous ai pas dit qu'on y était. Si vous avez écouté mes différentes déclarations, vous avez pu vous rendre compte sans peine que j'étais, de ce point de vue-là, en situation de réserve assez grande avec la manière dont le gouvernement ou la majorité présidentielle présentait les choses. Je pense qu'il va falloir reprendre notre projet de société et que c'est indispensable à cause de la crise. Voilà. Mais simplement, il y a deux manières de voir les choses. Ou bien celle que vous présentez, ou en tout cas que vous mettez en avant. qui consiste à dire au fond, va falloir organiser, la guerre ou le combat François Hollande et ses idées malsaines. Et moi, je vous dis qu'on n'y arrivera pas.
C'est ce que dit Mme Merkel, ce que j'ai dit. Alors,
Et donc, de ce point de vue-là, moi, je dis qu'on n'y arrivera pas dans cette ambiance d'affrontement qu'un certain nombre de gens essaient de bâtir. On y arrivera dans une ambiance qui sera une ambiance de co-responsabilité, dans laquelle on dira, vous avez été élu. La situation n'est pas, vous le voyez bien, celle que vous aviez prévue ou annoncée. Il va falloir que nous réfléchissions ensemble, tous ensemble, dans la vie politique française, dans la démocratie française, à ce qu'on peut faire pour sortir le pays de la crise. Et de ce point de vue-là, en effet, je veux être une force positive, une force de proposition, une force de conciliation, j'ai dit, entre ceux qui ont la responsabilité du pouvoir aujourd'hui et la réalité qu'ils vont devoir affronter.
L'augmentation du SMIC que projette le gouvernement, c'est une bonne idée, quelque chose de nécessaire et d'utile ?
Quelle expression, Michel Sapin l'autre jour disait, sans doute un coup de pouce, mais l'épaisseur du pouce ne sera pas très grande, quelque chose de cet ordre. Bon, voilà, c'est symbolique. Ça sera quelques, pour un smicard, quelques dizaines, tout petit nombre de dizaines d'euros par mois. C'est pas ça qui va changer considérablement les choses.
Est-ce qu'il faut redonner, de manière générale, du pouvoir d'achat aux consommateurs français ? Par exemple, François Hollande a défendu l'idée de l'encadrement des loyers. Cécile Dufaux, la nouvelle ministre des Territoires et du Logement, dans son discours d'intronisation, a rappelé cette mesure à François Hollande. Est-ce que pour vous, l'encadrement des loyers et d'une manière générale, redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est une mesure importante pour permettre à la France aussi de faire
de
la croissance ?
Je distingue les deux sujets. Je vais vous répondre sur les loyers. Sur les loyers, pour moi, le bon système, c'est le système allemand, qui est la publicité ou la rendre public un loyer de référence pour le quartier où vous habitez. Et si l'appartement qui est le vôtre dépasse ce loyer de référence, eh bien vous avez une autorité qui dit vous exagérez. Et ça, c'est une bonne chose. Alors c'est un encadrement, mais c'est pas l'encadrement du blocage que certains proposaient et que je trouverais stupide. Alors ensuite, sur le pouvoir d'achat, il faut relancer la participation et l'intéressement. Il faut qu'il y ait un lien direct entre le salaire et puis les résultats de l'entreprise. Et ce lien doit être renforcé. Et il y a des entreprises qui y travaillent, qui demandent qu'on aille dans ce sens. Et c'est pour moi le plus efficace. Tant qu'on n'aura pas trouvé la base pour un changement des charges qui pèsent sur les salaires, là, vous avez une réponse efficace rapidement. Intéressement et participation.
Retraite à 60 ans, qui va intervenir ? Ça, vous aviez déjà dit que ce n'était pas une bonne chose ?
Oui,
Vous n'avez pas changé ?
Je n'ai pas changé d'avis sur ce point. N'est-ce pas ? Quand vous prescrivez des dépenses nouvelles, il faut qu'elles soient financées, ces dépenses nouvelles. Et donc,
elles seront financées, puisqu'on nous dit qu'il y aura une hausse des cotisations.
Oui, donc une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, vous voyez que cet équilibre-là est très difficile
à
trouver.
Il faut tout financer, d'ailleurs. Vous avez raison, il faut tout financer. Mais bon, on ne fait plus rien, quoi, à ce moment-là.
Oui, mais...
Puisqu'il n'y a pas d'argent, le seul travail... si on suit votre raisonnement, ce n'est pas du tout une critique, mais j'essaie d'être dans votre raisonnement, le seul travail qu'un gouvernement a à faire, c'est d'essayer d'ajuster les recettes et les dépenses et de réduire les déficits.
Pas du tout.
D'accord.
Alors, si vous avez compris ça, c'est que je me suis très mal exprimé,
mais vous allez retrouver
mes phrases.
Non.
Le travail prioritaire qu'un gouvernement a à faire, c'est de relancer la production dans le pays. Le travail prioritaire, ça n'est pas de couper ici ou d'augmenter les impôts là, c'est de faire que la richesse commune du pays augmente. Et elle ne peut pas augmenter dans un pays dans lequel le commerce extérieur est tellement déficitaire que c'est 70 milliards par an que nous prenons dans les ressources des Français pour aller alimenter les économies. Ceci est indispensable.
Je reprendrai ce que vous disiez avec justesse à propos de l'Europe, c'est qu'il faut du temps et industrialiser, réindustrialiser un pays, ça prend du temps. Or, l'immédiat, c'est de descendre à 3% de déficit en 2013 et là, il faut bien...
Et trouver des solutions,
Des solutions douloureuses.
Et on nous annonce, gestion de la majorité précédente, 4,3.
Oui.
Quelque chose de cet ordre.
C'est-à-dire que le FMI et la Commission européenne disent que, vu la surévaluation de la croissance, il est possible que le déficit en 2013 en France, si rien n'est fait, sera au-delà de 4, alors que nous nous sommes engagés à 3.
Eh oui, donc, c'était même mon thème de campagne.
Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut privilégier le maintien d'une croissance, si le maintenir ce qui existe, même si la croissance baisse, ou alors respecter l'engagement de réduction des déficits que nous avons pris.
Il faut rebâtir notre modèle social de services publics pour qu'ils coûtent moins cher et rendent de meilleurs services. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour les services publics, c'est vrai pour l'éducation. Il va falloir reprendre les choses. Nous n'y arriverons pas sans ressources nouvelles, sans toucher à l'organisation de notre intervention publique. Vous entendez ça? C'est une chose très importante, bien entendu. L'idée qu'on va pouvoir s'en sortir sans rien changer, simplement en mettant plus d'impôts et en dépensant plus, cette idée, je l'ai dit tout au long de ces mois, cette idée n'est pas valide. Ça ne marchera pas. Et donc il faut, dans la vie politique française, des voix qui soient des voix qui pense, ou en tout cas qui exprime une pensée à propos de cette reconstruction de notre modèle français. Parce que je n'accepte pas l'idée qu'il faille qu'on abandonne un certain nombre de devoirs qui sont les devoirs de l'État, ni dans le domaine de l'éducation, ni dans le domaine de la santé, ni dans le domaine de la solidarité. Mais cependant, je pense et je sais qu'on peut faire mieux en ayant une meilleure utilisation des dépenses publiques. Et là est la seule voie qu'il faudra suivre.
Sur l'éducation, Vincent Payon, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a lancé l'idée, alors apparemment sans concertation, enfin on n'a pas très bien compris, d'une semaine de 5 jours à l'école primaire. Vous avez été, bien sûr, on s'en souvient, ministre de l'Éducation en 93, jusqu'à 97, je crois. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est ma première question. Et toujours sur le même sujet, est-ce que ça doit se faire, si ça se fait, avec concertation des fédérations de parents d'élèves, ou bien est-ce que le ministre peut dire, après tout c'était dans le programme du candidat, je le fais, c'est une évidence.
Vincent Payon est en train de découvrir que c'est pas facile d'être ministre de l'Éducation nationale. De ce point de vue-là, on aurait été un certain nombre à pouvoir lui passer le secret avant. Et donc, il a raison sur un point. Il y a une anomalie française dont les élèves souffrent dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, qui est trop d'heures de cours sur trop peu de jours de cours. Trop peu de jours, trop d'heures de cours. Donc il a raison de poser cette question, mais il n'y a pas de décision qui puisse être prise au ministère de l'Éducation sans ce grand travail de concertation qui demande du doigté, de l'écoute, de la confiance réciproque, et je ne lui conseillerais pas de passer en force.
Et donc pour l'instant, sur ce sujet, il l'a pas fait.
Il n'était pas nommé encore quand il a fait cette déclaration. Donc, je pense ou j'espère qu'il va le faire. C'est très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que les modes de vie dans la société évoluent. Autrefois, on avait cours le samedi matin. Tout le monde s'en souvient. Mais cours le samedi matin, aujourd'hui, lorsque, au temps des familles recomposées, où les enfants doivent aller chez leur papa pour passer le week-end, et un week-end de 2 jours, c'est mieux qu'un week-end de seulement une journée, tout le monde comprend que ce sont des contraintes de la société qui sont très importantes,
du tourisme aussi,
et des familles. Et puis le mercredi, c'est bien aussi que les enfants puissent dormir un peu le matin. Alors peut-être pourrait-on imaginer que le mercredi, il y ait des plages horaires de cours qui ne soient pas trop tôt le matin. Mais à ce moment-là, vous avez des gens qui disent mais le catéchisme, et c'est vrai, ça compte pour ceux qui vont.
Alors on fait les semaines de 8 jours.
Ou le sport, enfin voilà.
On fait les semaines de 8 jours.
Oui, tout c'est ça qu'il faut faire. Pas très simple.
Allez.
La révolution avait imaginé la semaine de 10 jours.
Oui, c'est ça. Voilà une solution. Étienne Moujotte.
Madame Taubira, le nouveau garde des Sceaux, a annoncé aujourd'hui sa première mesure, c'est pas de sa première initiative. Elle veut supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs qui avaient été institués par la loi du 10 août 2011. Ça vous paraît une priorité?
Non, ça ne me paraît pas un très bon signe. Il faut rappeler ce qu'est cette loi, hein. Au lieu d'un tribunal pour enfants, un tribunal correctionnel pour des adolescents ou des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont récidivistes et dont les actes dont ils sont accusés valent plus de 3 ans de prison. C'est quand même un peu lourd, hein.
Des actes graves.
Ce sont des actes graves. Et alors, la loi avait dit, on va les faire juger par un tribunal correctionnel, qui a d'ailleurs lui aussi les moyens de nuancer son jugement. Alors, c'est remis en cause par le nouveau gouvernement. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ce que le gouvernement oublie, c'est que dans l'ordonnance de 1945, il y a des cours d'assises pour mineurs. Et qui ont d'ailleurs, si je comprends bien, à peu près la même organisation de la cour d'assises que la cour d'assises pour majeurs. Et donc, qu'il y ait une gradation de la réponse pénale avec le maintien de cette menace qui est un tribunal correctionnel pour ceux qui font des bêtises, s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou 18 ans, bon, alors c'est important. Dernière chose, ça n'est pas là que ça se joue. Ça se joue dans les mesures éducatives qu'on peut proposer aux mineurs très jeunes ou qu'on peut imposer aux mineurs très jeunes. C'est là que se situe la clé et la réponse. Parce que lorsqu'un mineur récidiviste, au-delà de 16 ans et presque à 18 ans, fait des actes de cette gravité-là, c'est que avant on a manqué quelque chose dans sa formation. Et donc c'est au début qu'il faut une réponse rapide, éducative, qui prenne en charge les choses et qu'on n'ait plus à déplorer ces dérives perpétuelles auxquelles ce gouvernement va devoir faire face comme les autres. Donc je trouve que ça n'était pas l'urgence et à mon avis pas un bon signal.
Pour terminer ce grand jury, François Bayrou, finalement quel jugement portez-vous sur l'action qu'a menée Nicolas Sarkozy pendant 5 ans? Pas sur la campagne, mais sur l'action qu'il a menée.
C'est quelqu'un d'énergique et c'est la principale caractéristique qui est la sienne. Et même c'est quelqu'un d'énergétique. Il a beaucoup mis de lui-même au service de son action. Très souvent, cette action a été désordonnée. Et dans la période où il s'agissait de faire des choix électoraux, il s'est laissé entraîner à des choix qui étaient des choix qui augmenter le conflit, les tensions entre Français. Et de ce point de vue-là, je pense que il n'a pas servi, y compris ses intérêts. Voyez-vous, je pense que Nicolas Sarkozy aurait pu gagner cette élection s'il avait choisi, au contraire, d'être le président d'expérience et rassembleur. Je pense qu'il a perdu beaucoup, il a gagné peut-être des voix, mais il a perdu beaucoup à faire flamber les passions, les tensions entre Français, à ces histoires de frontières qu'il fallait rebâtir, et que l'école, ça serait l'apprentissage des frontières, à l'obsession de l'immigration, à l'obsession de l'islam. Tout ceci allait, à mon sens, en tout cas comme citoyen, je le pense, aller directement au contraire de ce dont la France a besoin aujourd'hui. La France a besoin de compréhension réciproque et pas d'affrontement. Elle a besoin de conciliation, elle a besoin d'apaisement et elle a besoin de volonté politique autour des grands sujets. La production en est un, l'éducation en est un autre, à partir desquels nous allons devoir reconstruire un pays qui est dans une situation terriblement inquiétante.
Rapidement, Étienne Moujotte.
Oui, vous m'avez surpris la semaine dernière. Vous avez dit dans une radio concurrente, je ne regrette jamais, jamais les choix que j'ai faits. Comment un homme de votre expérience ne peut-il pas admettre que quelquefois...
En tout cas, celui-là, oui, ça peut arriver, bien sûr.
Mais dans la vie.
Quand je me trompe, ça n'est pas des regrets que je ressens.
Vous pensez à quelque chose de précis, Étienne?
Non, c'était une philosophie de vie.
Oui, c'était... C'est le,
admettre qu'on peut se tromper.
Heureusement... Vous aussi, ça vous arrive?
Oui,
rarement.
Oui.
Rarement.
Non, rarement. Oui, oui, oui.
Eh bien, moi, ça m'arrive, bien entendu, aussi. Mais je ne vis pas sur le mode du regret. Vous savez, ce sont des décisions auxquelles on réfléchit pendant longtemps, profondément, difficilement, car ce sont des décisions très difficiles à prendre, et dont, évidemment, on a après à supporter les chocs en retour. Si on le fait, c'est pour des raisons graves. C'est pas pour des raisons qui tiennent à l'intérêt politique. L'intérêt politique, tout le monde sait où il était pour moi. Hein, c'est, franchement, j'avais, comme vous le disiez tout à l'heure, Étienne Moujotte, j'avais grand intérêt politique à faire un autre choix. Mais c'est des choix d'hommes. C'est à quoi tu donnes ta vie? Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Et une fois que vous avez répondu à ces questions, alors il n'y a pas de regret.
Ce grand jury est terminé. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonsoir.